tout le week-end et de découvrir, j'espère, des choses qui vous sont utiles. On entend souvent dire que les pratiquants des trois grandes religions monothéistes de l'Occident, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont les peuples du livre. Cette appréciation vient en fait de Mahomet dans le Coran. Et elle est trompeuse. Parce que nous autres chrétiens, nous ne sommes pas le peuple d'un livre, le Nouveau Testament. Au moins pas dans le même sens que les juifs sont le peuple de la Torah et que les musulmans sont le peuple du Coran. Bonjour.
Bonjour.
Entrez donc. Nous ne sommes pas le peuple d'un livre. Vous savez, ces chrétiens du Nouveau Testament dont on parle souvent ne possédaient pas le Nouveau Testament. Nous sommes le peuple d'un homme. Et cet homme s'appelle le Logos, la parole vivante de Dieu. Et cet homme a une place dans notre foi chrétienne qui est différente, qui dépasse de loin celle d'un simple prophète, tel que Moïse ou tel que Mahomet. C'est Jésus lui-même, la révélation. C'est lui, sa propre personne, qui est la révélation définitive de Dieu à la race humaine. Notez bien, une personne et non pas un bouquin. Bien sûr, les écrits des apôtres que l'Église a réunis, a reconnus pour constituer ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament, sont notre lien historique nécessaire avec le Christ vivant. Essayez d'imaginer ça. Si nous n'avions pas le Nouveau Testament, si nous n'avions pas les écrits des apôtres, nous qui vivons, quoi, 2000 ans après sa naissance, mais comment pourrions-nous avoir une source fiable pour connaître cette parole vivante? Mais cette parole écrite qui est nécessaire, ce Nouveau Testament se présente donc comme un témoignage. C'est un témoignage historique rendu à cet homme, Jésus de Nazareth. Le Nouveau Testament ne se présente pas, n'a pas été rédigé comme un manuel de doctrine et de pratique. Nous évoluons dans un milieu, une culture religieuse, bon, disons grosso modo le monde évangélique, qui a pris l'habitude de lire justement le Nouveau Testament comme un manuel de doctrine et de pratique. Bon, ça va. Mais il faut savoir comment lire ce texte. Notre façon de lire le Nouveau Testament se voit comment dans la façon dont nous abordons les épîtres. Les épîtres, au départ, c'était des lettres. C'est ça le sens du mot épître. C'est des lettres ponctuelles traitant des situations d'église locale et bien situées dans un contexte historique très précis. Alors, nous avons l'habitude de scruter ces textes presque au microscope pour en extraire les doctrines, les pratiques, les commandements pour définir notre pratique actuelle. Mais un problème. Le problème, c'est que ces lettres ne sont pas écrites comme un manuel. Et ce fait-là nous pose pas mal de problèmes de lecture et aboutissent à des interprétations, des lectures différentes et parfois contradictoires Et bon, je n'ai pas besoin de vous dire, ça crée toutes sortes de controverses. Ça crée toutes sortes de controverses dans l'histoire de l'Église. Mais ce n'est pas vraiment là mon sujet ce week-end. C'est que nous avons tendance à appliquer cette même méthode de lecture aux évangiles. En fait, on entend assez couramment de nos jours, or depuis peut-être 20 ans, on entend dire que les évangiles sont des manuels du parfait disciple. Bon, là, c'est ma tentative de traduire une expression anglaise. Je vais écrire peut-être. Donc ça, c'est manuel. Discipleship. Bon, ce mot n'existe pas en français. C'est l'art d'être un disciple. Petite parenthèse. La langue française a été influencée au moins depuis 1500 ans par la pensée chrétienne. La langue française a un vocabulaire théologique très profond et très riche. Et pourtant, ce mot n'existe pas en français. Quoique ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent nous abordons les évangiles de la même façon que nous abordons les épîtres. Nous essayons d'extraire le maximum de doctrines, de pratiques, de commandements pour régler notre vie de disciple, pour régler notre vie d'église. Autrement dit, nous traitons comme des manuels des écrits qui n'ont pas été écrits, rédigés comme un manuel. Et je vois là un danger. C'est un danger spirituel, je vois là. Parce qu'on pourrait, en faisant cela, nous imaginer que la religion chrétienne, le cœur de la religion chrétienne, l'essence de la foi chrétienne, consiste à reproduire dans notre vie le modèle que nous avons extrait de ces manuels qui n'ont pas été écrits comme des manuels. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous pouvons croire que c'est ça, être un chrétien. Bon, cette méthode-là, de lecture, je vais l'appeler inductive. Et c'est vrai, en utilisant cette méthode de lecture, nous pouvons trouver plein de conseils sages, plein de conseils utiles pour notre vie pratique, pour notre vie spirituelle actuelle. La démarche parle d'un bon sentiment et d'une vraie piété. Et cette méthode de lecture est légitime, à condition d'être employé à bon escient. Mais je vais vous dire franchement, cette méthode est lamentable si nous voulons comprendre ce qui se passe vraiment dans les évangiles. Et j'ai bien choisi le mot. Cette méthode est lamentable pour comprendre les évangiles. Et puisque c'est notre méthode de lecture par défaut, c'est-à-dire que nous faisons sans même réfléchir, chaque fois que nous prenons l'évangile dans nos mains, ben le résultat est là. Globalement, nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe dans les évangiles. Nous connaissons les histoires, les gens et tout le reste, mais qu'est-ce qui se passe dans les évangiles? Nous ne sommes pas très forts pour ça. Mais pourquoi est-ce important de comprendre ce qui se passe dans les évangiles. Pourquoi? Parce que l'enjeu est énorme. Imaginez, on va faire une petite expérience mentale. Imaginez que votre Nouveau Testament, Hein, celui que vous avez avec vous, j'espère, pour cette retraite, ne contenait, ne comportait que le livre des Actes et les Épîtres. C'est-à-dire, il n'y a pas Matthieu, il n'y a pas Marc, il n'y a pas Luc, il n'y a pas Jean. Ce que nous pourrions glaner au sujet de la vie terrestre de Jésus serait minime. Et nous ne posséderions qu'une seule parole de Jésus, que l'apôtre Paul cite en Actes chapitre 20, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est les seules paroles de Jésus que nous connaîtrions. Connaître Jésus dépend incontestablement des quatre évangiles. Incontestablement. Alors que nous trouvions ce sujet ardu, ennuyeux, trop technique, ou au contraire que nous trouvions ce sujet passionnant, le fait est, il faut se poser la question de comment ou savoir comment lire les évangiles. C'est vraiment une question primordiale. Une lecture déformée des évangiles nous donnera une vision déformée de Jésus. Et mes amis, suivre le mauvais Jésus, c'est un risque que nous n'osons pas prendre dans notre vie chrétienne. Souvent, on regarde l'Église et on essaie d'analyser le problème, diagnostiquer ce qui ne va pas dans l'Église. Et souvent, on conclut que c'est un manque de pratique des disciplines spirituelles. Il faut prier plus, il faut évangéliser plus, toutes ces disciplines spirituelles. Et c'est vrai, ça manque toujours dans l'Église. Mais à mon avis, ce n'est pas le problème de base. Le problème de base, c'est que nous suivons le mauvais Jésus. Vous savez, vous pouvez être un disciple médiocre ou un super disciple. Mais si vous suivez le mauvais Jésus, ça ne sert à rien de toute façon. N'est-ce pas? Connaître Jésus. Ah, ça c'est plus difficile. Connaître et aimer Jésus est plus difficile qu'être un disciple. Les apôtres, à la fin des évangiles, ils sont pas mal comme disciples, mais ils sont nuls comme croyants. Ah, c'est vrai. Jésus finit son ministère terrestre avec zéro croyant. On va voir ça. Bon, la méthode de lecture que je vais essayer de vous présenter ce week-end, au moins vous donner, soulever un peu le voile peut-être vous introduire à cette façon de lire les évangiles, n'est pas nouvelle. Cette méthode n'est pas nouvelle du tout. Elle remonte au premier père de l'Église et même encore plus loin. Elle remonte aux rédacteurs du Nouveau Testament eux-mêmes. Cette façon dont nous allons voir de lire les évangiles, c'est comme ça que Paul, Pierre, Jean et les autres lisaient les Écritures. Ils ne lisaient pas les Écritures comme nous le faisons aujourd'hui. C'était pas leur façon de faire. Avec certains autres biblistes, j'appelle cette méthode. Bon, il ne faut pas avoir peur des gros mots que je mets sur le tableau. Je vais mettre ici, typologique. Et on l'appelle comme ça parce qu'elle est basée sur l'utilisation de signes qu'on appelle aussi des types, des préfigurations, des images. Je vais définir tout cela plus tard. Un signe ou un type, c'est un événement historique qui est vrai, qui est réel. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé, mais qui a aussi un sens symbolique. Si on ne se rend pas compte de ça, on va passer à côté de beaucoup de choses dans la vie. Alors, ma version de cette méthode typologique repose sur trois piliers. Et comme je disais, on va voir dans les études à venir la définition de ces choses. Le premier pilier, c'est le dessein de Dieu. Les anciens sémites dans la salle pourront vous expliquer ce qu'est le dessein de Dieu. Deuxième pilier, c'est la typologie, l'utilisation de signes et de types. Et le troisième pilier, c'est la structure de l'œuvre de Jésus, de son œuvre de révélation. Vous savez, le ministère de Jésus a une structure. Les évangiles ont une structure. Ça, c'est un début, un milieu et une fin pour expliquer comment Jésus réalise le dessein de Dieu. Et il faut tenir compte de cette structure quand on lit les évangiles. Bon, je n'explique pas cela ce soir. Hein. Simplement, je vous dis ce que je vais dire. Alors, quand on base notre lecture des évangiles sur ces trois piliers, là, une porte s'ouvre. Une porte qui nous donne accès à une intelligence bien plus juste et infiniment plus profonde des évangiles. Et donc, d'une intelligence bien plus juste et infiniment plus profonde de Jésus, qui est le sujet des évangiles. Je ne veux pas simplement vous apprendre comment lire un texte. Je veux vous apprendre comment connaître Jésus mieux. C'est ça que je veux. Et je crois que notre lecture habituelle de lire les évangiles est un obstacle à cela. C'est pour ça qu'on parle de cela. Alors, au cours de nos sessions, nous allons appliquer... Oh là là, est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Ah, c'est plus facile de faire des mots que de les effacer. Nous allons appliquer cette méthode à certains textes des évangiles. Et c'est là que cela devient intéressant. Vous savez, j'aurais pu choisir ces textes au hasard, presque. J'aurais pu ouvrir mon évangile, fermer les yeux et faire ça pour illustrer la méthode. Parce que cette méthode concerne l'ensemble des textes évangéliques. 1, 2, 3. Mais il fallait faire un choix. Et j'ai utilisé deux critères pour choisir les quelques textes que nous allons examiner ensemble. Premièrement, j'ai choisi des textes dont la difficulté est reconnue par tout le monde. Des textes qui donnent le fil à retordre à tous les commentateurs, hein, quelle que soit leur confession. Et deuxième critère, j'ai choisi des textes qui illustrent, peut-être plus clairement que d'autres, la différence entre... j'aurais pas dû effacer ça. La méthode inductive et la méthode typologique. Il y a certains textes où oh là, la différence, le changement que ça fait quand on applique ces deux méthodes d'interprétation est flagrante. Et donc, j'ai choisi avec ces deux critères à l'esprit. Mais on aurait presque pu choisir par hasard. Tellement c'est fondamental. Je vous dis, il y a quatre textes que nous allons voir dans la partie diaporama de cette présentation. Quatre textes. Le texte où Jésus dit qu'il faut se réconcilier avec un frère avant d'apporter son sacrifice. C'est dans le sermon sur la montagne. Le deuxième texte, c'est le denier de César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le troisième texte, c'est plus difficile, c'est vraiment le champion des casse-têtes pour les exégètes, c'est l'histoire de l'esprit impur, où un esprit part et puis il revient avec des amis. Ah, c'est un vrai casse-tête. Et quatrièmement, l'histoire de la femme adultère, en Jean chapitre 8. Et c'est intéressant ce texte parce que si vous êtes plutôt progressiste dans votre approche du christianisme, vous citez ce texte beaucoup. Et si vous êtes plutôt conservateur, non, vous négligez. Je vais dire que dans toute ma vie chrétienne, ça fait quoi, 45 ans plus que je suis chrétien, jamais entendu un sermon sur le retour de l'esprit impur. Par contre, j'ai entendu beaucoup citer la femme adultère. Et on va regarder ces deux textes. Si on a le temps, j'ai choisi d'autres textes, ou si vous avez des suggestions, il faut venir me le dire, et on va regarder comment ça peut nous aider dans notre compréhension. Bon, je suis pleinement conscient, ce n'est pas la première fois que je parle de ce sujet, je suis pleinement conscient de combien cette approche pourrait vous paraître nouvelle, étonnante, dépaysante, bizarre et même choquante. Je suis conscient de cela. Et je vous remercie d'avance de votre attention. Je sais que c'est une attention bienveillante. On est entre frères et sœurs ici. Et je vous remercie d'avance de vos efforts et de votre patience. On appelle cette réunion une retraite, mais je suis désolé, vous allez travailler. Je vais faire travailler votre cerveau. Mais c'est dans une bonne cause, c'est pour une bonne cause. Alors, une autre chose. Vous savez, j'enseigne beaucoup à Chrétien en Mission à Marseille. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Il ne faut pas hésiter de m'interrompre. Parce que l'important pour moi, ce n'est pas finir le programme de texte que j'ai établi. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de vous lancer sur une piste qui vous mènera, j'en suis persuadé, à une connaissance plus profonde de Jésus et un amour plus profond de Jésus. C'est ça que je veux. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous compreniez tout de cette méthode. Moi, j'ai mis 45 ans. Et je suis, entre guillemets, théologien professionnel. Donc, ce que je veux faire avec vous, c'est une initiation. C'est une introduction et je suis persuadé que c'est utile. Vous savez, des choses comme ça, je les considère beaucoup plus, entre guillemets, pratiques que les choses que nous considérons pratiques. Parce que notre vie n'est pas simplement faite de choses, de comment faire des choses. Notre vie est faite de pourquoi nous faisons des choses. Et si nous connaissons Jésus, là, à mon avis, nous serons plus sages que si on était vraiment des techniciens dans les disciplines spirituelles, on avait un doctorat dans cela. Savoir qui est Jésus nous aidera beaucoup plus dans notre vie pratique de connaître un tas de disciplines spirituelles. Moi, je suis persuadé. Donc, je vous invite à faire ce petit voyage avec moi. Demain, à l'aide d'une projection, parce que c'est plus facile de suivre avec des textes et des images, je vais faire une petite... une petite explication théorique, disons, et puis on va se jeter dans mes textes. Et vous allez voir comment ces textes prennent un sens nouveau, un sens différent. Je vais donner quelques outils pour faire cela. Alors, c'est un voyage que je vous invite à faire avec moi. Voilà, présentation du sujet. Il faut m'arrêter, je continue.